Radio Estable.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
La première escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène dans les cantines scolaires de Sao Paulo. Et croyez-moi, si vous entendez convaincre votre enfant de manger à la cantine, ça va pas vous aider. On parle de boulettes recyclées qui ressemblent à des croquettes pour animaux. 18h40, le Brexit saison 2. Ça sent les cartons. On commence à vider le royaume des agences de l'Union européenne qui devront partir. L'ambiance est toujours aussi bonne. Sinon, vous entendrez parler d'une lettre qui n'a pas fait plaisir à tout le monde. 18h50, les médias dans le monde, Alexandra Hakoun, et une carte de presse honorifique remise par le Québec pour le blogueur saoudien Raif Badawi, qui est toujours lui enfermé. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger au Zimbabwe ce soir. Avant cela, nous partons pour un pays qui s'enfonce dans une grande indifférence, comme c'est souvent le cas. Et pourtant, la France y était présente avec ses soldats il y a un an encore. Nous partons pour la Centrafrique.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
La mission Sangaris a donc pris fin il y a un an maintenant. À l'époque, il s'agissait de séparer des communautés attaquées par les Séléka, majorité musulmane d'un côté, les anti-Balaka, majorité chrétienne de l'autre. Et sans doute, c'est ce qu'on disait à l'époque en tout cas, a-t-on évité ce qui aurait pu être comparable au génocide rwandais. Mais aujourd'hui, alors que le mandat de l'ONU est renouvelé, la situation sécuritaire est plus qu'incertaine. Combien de massacres restaient impunis? Et pas sûr que le renforcement acté juste là, la semaine dernière, de la force des Nations Unies, un renforcement de 900 hommes, pas sûr donc que cela suffise à rendre le pays moins dangereux. La Centrafrique s'enfonce et la crise est l'une de ces crises oubliées. Bonsoir Roland Marchal.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste de l'Afrique centrale notamment. Et bonsoir à vous Marilyn Cetadini.
Bonsoir.
Vous êtes chef de mission, d'où ce petit décalage, chef de mission pour Solidarité internationale en Centrafrique. Je voudrais qu'on commence avec vous, Marilyn Cetadini. Je voudrais que vous nous parliez de ce à quoi ressemble la Centrafrique aujourd'hui, un an après le départ de Sangaris, des militaires français. Vous diriez quoi quand vous regardez autour de vous? Qu'est-ce que vous voyez? À quoi ça ressemble aujourd'hui ce pays?
C'est un pays qui reste dans une situation de crise humanitaire et qui s'est enfoncé malheureusement dans cette situation au cours de l'année 2017. C'est un pays où on a une ville sécurisée au niveau de la capitale de Bangui, mais hors de la capitale, on a toujours des affrontements entre groupes armés qui provoquent le déplacement de population. On a une vraie problématique de protection des civils qui sont exposés à des exactions, une problématique de violence sexuelle qui affecte particulièrement les femmes. Et des besoins humanitaires énormes en dépit de financements provinces.
Il y a, on va dire, entre 4,5 millions et 5 millions d'habitants en Centrafrique. Combien de personnes ne sont pas rentrées chez elles, sont loin d'être rentrées, vivent encore dans des situations extrêmement précaires?
Alors on estime aujourd'hui qu'il y a plus de 600 000 personnes déplacées au sein du pays, ce qui est une augmentation par rapport au début de l'année, plus de 40% d'augmentation au niveau des personnes déplacées depuis le début de l'année 2017. Et on estime également qu'il y a plus de 500 000 réfugiés dans les pays voisins, nombre qui a aussi augmenté au cours des derniers mois. On s'attendait à un retour progressif, mais finalement on a aussi constaté qu'il y avait des nouveaux départs vers les pays voisins.
Marilyn Cetadini, j'imagine que vous avez vu revenir ces instants de violence qui avaient effectivement un peu passé pendant la présence de Sangaris, le début à nouveau de l'arrivée de milices, enfin j'allais dire l'arrivée, le terme n'est pas très propre parce qu'elles ne sont jamais réellement parties. Est-ce que vous avez vu basculer en 2017 le moment où à nouveau les milices ont pris le pouvoir, ont pris les territoires même en Centrafrique?
Alors moi je ne suis pas suffisamment ancienne en Centrafrique pour avoir vu ce basculement. Maintenant clairement on a observé une recrudescence des violences et des incidents aussi qui ont affecté d'abord la population civile mais aussi les humanitaires. Mais comme vous le dites, je pense qu'il y a des causes profondes à cette crise qui n'ont pas été forcément réglées. On était peut-être en 2016 dans une situation de paix armée, mais toujours avec une forte présence de groupes qui n'avaient pas été désarmés et avec un fort potentiel de recrudescence de la violence. Et c'est malheureusement ce à quoi on a assisté en 2017.
Est-ce que vous entendez dire des gens autour de vous qui disent « il faudrait que les Français reviennent » Est-ce que c'est des mots qu'on entend ou pas?
Rarement. Mmh. Je pense qu'il y a, il y a une demande de protection des civils. Alors après, quelle que soit la solution et les moyens mis en place pour y arriver, il y a un ras-le-bol, clairement, au niveau des populations qui souffrent de son conflit qui s'éternise, qui ne voient pas d'amélioration dans leur quotidien et qui ne comprennent pas pourquoi leur protection ne peut pas être garantie aujourd'hui.
Merci beaucoup Marilyn Cetadini. Vous restez évidemment avec nous. Roland Marshall, quand on décrit cette situation-là, il n'y a pas si longtemps, c'était aux Nations Unies, Stephen O'Brien, qui est chargé des affaires humanitaires aux Nations Unies, a dit il y a des signes avant-coureurs de génocide qui sont là. Est-ce qu'on est revenu à ce point-là en Centrafrique? Est-ce que vous diriez vous aussi qu'on est au bord du génocide?
Écoutez, non. Je crois que le terme génocide, si vous voulez, il fait problème, notamment parce que vous avez une multiplicité de situations locales où des gens peuvent être tués, mais il n'y a pas de politique, de stratégie pour éliminer une communauté ou une autre. Hein, donc, si vous voulez, le terme génocide est complètement inadéquat de ce point de vue-là. Mais vous avez des massacres, oui, ça c'est vrai, et là c'est inquiétant. On peut considérer que c'est depuis septembre 2016 que la situation a commencé à se détériorer, et on peut également considérer que la prise, enfin que les combats à l'intérieur de la ville de Bangassou, donc à l'extrême sud-est du pays, constituent, disons en 2017, en mai 2017, un tournant quasiment structurel de la situation.
Donc, pardonnez-moi, est-ce qu'on sait qui contrôle quoi, en fait? Quel groupe armé contrôle quoi? Ou est-ce que c'est tellement nébuleux, finalement, qu'on a du mal à savoir qui est où, dans quel territoire?
Alors, si vous voulez, la SELECA n'a jamais existé, ou plutôt elle n'a existé qu'au moment de la lutte décisive contre le président Bozizé et son régime en mars 2013. Et depuis ce moment-là, elle a toujours existé comme une somme de factions qui sont fondamentalement alliées, mais sont aussi fondamentalement concurrentes. Et donc,
et qui s'est éclatée, en fait. Il faut rappeler que la SELECA, c'est majorité musulmane,
oui,
et qui se sont éclatées ensuite.
Et donc, vous avez différents groupes qui existent sur des bases ethniques ou sur des bases régionales et qui s'allient ou se désallient suivant les opportunités, souvent économiques. Et puis, de l'autre côté, vous avez alors là une constellation de milices d'autodéfense qu'on appelle les anti-Balaka, donc censés être chrétiennes, alors qu'en fait tout leur comportement est géré par l'animisme. Hein. Et quant à elles relèvent le plus souvent de situations locales, même si vous avez eu différentes tentatives de les fédérer, disons sous l'influence de François Bozizé, donc l'ancien chef d'État, ou sous l'influence de nouveaux hommes politiques qui essayent d'émerger.
Mais ça veut dire que la ligne de fracture, elle est où? C'est une ligne de fracture qui est religieuse, qui est ethnique? C'est quoi la ligne de fracture, en fait?
La ligne de fracture, c'est une ligne de fracture sur la citoyenneté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un est centrafricain et quelqu'un ne l'est pas? Et c'est sur ce désaccord majeur que fondamentalement les gens s'affrontent, et dans des conditions de plus en plus sanglantes. Et si vous voulez, c'est là où il y a, je pense pour de nombreux observateurs, un espèce de pessimisme maintenant généralisé sur le fait que, malgré les élections, malgré un nouveau gouvernement qui a été quand même porté à bout de bras par la communauté internationale, il n'y a eu aucun effort de ce gouvernement d'aborder ce problème-là, c'est-à-dire d'en parler publiquement, de prendre des positions courageuses peut-être à certains moments vis-à-vis de l'opinion publique, et surtout d'avancer dans des réformes de gouvernance qui auraient permis de consolider ce sentiment d'appartenance comme citoyen à une nation centrafricaine qui est diverse, mais qui existe.
Le président dont vous parlez, qui s'appelle Faustin Archange Touadéra, qui a été effectivement posé là au moment où les Français étaient encore en place. Il y avait beaucoup d'espoir autour de ce personnage, de ce monsieur, lorsqu'il est arrivé. Est-ce qu'il a une vraie marge de manœuvre, ou est-ce qu'il n'a juste rien fait?
Écoutez, moi j'ai tendance à penser, c'est quelqu'un, si vous voulez, surtout compte tenu des personnes qu'il remplace aujourd'hui, quelqu'un qui est ouvert, qui est intellectuellement dynamique, qui est tolérant aussi, qui a une réelle ouverture d'esprit. Mais c'est quelqu'un qui n'a en aucun cas fait des choix difficiles, c'est vrai, mais les choix qui auraient permis d'amorcer une réconciliation nationale, d'ouvrir des négociations avec les groupes armés, parce que c'est pas la même chose que la réconciliation nationale, et puis de faire les réformes de gouvernance, parce que la Centrafrique aujourd'hui, et l'État centrafricain, est aussi corrompu qu'il l'était pendant la transition et avant, et ça, ce n'est plus possible, et on attendait ça de lui, et ça n'est effectivement pas venu.
Est-ce que ça veut dire que la présence française, notamment donc 2 ans de Sangaris, tout ça n'a servi à rien, en fait?
Écoutez,
est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'on me dit ça? Échec total.
Écoutez, vous savez, évaluer une opération internationale, c'est toujours l'évaluer par un certain nombre de critères. Alors, Sangaris a permis d'éviter le pire en décembre 2013, moi j'étais à Bangui, on était dans une situation où les gens se tuaient dans les rues de la ville, au centre-ville et ailleurs. Donc, Sangaris a évité que ce type de situation se généralise et a rétabli un certain calme. Là où Sangaris a échoué, c'est pas dans cette dimension militaire, c'est dans le fait que Sangaris, finalement, s'est inscrit dans une stratégie politique qui a été de dire, finalement, les groupes armés, on les désarme pas, on ne règle pas politiquement les problèmes qui sont posés par leur présence, on va aux élections. Et puis, ça sera à la charge du nouveau gouvernement centrafricain, dirigé par Faustin Archange Touadéra, de régler ces problèmes-là. Mais nous, on part. Et c'est là, et ça, c'est un choix politique qui a été fait par les autorités françaises, donc Jean-Yves Le Drian et Laurent Fabius à l'époque, et puis évidemment François Hollande. C'est ce choix-là qui a condamné, d'une certaine façon, la Centrafrique à un retour de la guerre.
Mais au fond, est-ce que les soldats français ne sont pas partis pour forcer la communauté internationale à agir aussi? Une manière de dire, attendez, on va pas prendre en charge ça tout le temps, nous. Il y a 12 000 soldats de l'ONU qui sont là, qui fassent leur travail. Il y avait peut-être aussi de ça.
Oui, hein, bien sûr. Et je crois que, de ce point de vue-là, si vous voulez, la posture française est tout à fait légitime. Hier comme aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ce soit les Français qui interviennent en premier en Centrafrique. Le problème est que si on veut faire ça, alors on se prépare. Or, on est passé, si vous voulez, sans vouloir personnaliser le problème, d'un ambassadeur qui se comportait comme un proconsul de la pire époque en Centrafrique, à un ambassadeur aujourd'hui qui a des instructions pour justement laisser la place à la communauté internationale. Donc ça a créé, et aux Nations Unies qui sont particulièrement faibles, pas seulement d'un point de vue militaire, mais également d'un point de vue politique. Donc on est parti d'une gestion microscopique hein, où tout était décidé par l'ambassadeur de France et avec l'ambassadeur de France, à une gestion qui est beaucoup plus normale dans un pays qui est face à une situation radicalement anormale.
Alors il va y avoir 900 hommes supplémentaires quand même. Est-ce que ça sert à rien? Cotère sur une jambe de bois. Est-ce qu'il faudrait un mandat plus robuste, peut-être? Parce qu'il faut rappeler quand même que la marge de manœuvre de ces soldats, elle est extrêmement mince.
Alors, je crois que le nouveau mandat donne quand même un certain nombre d'assurances sur la protection des civils. Il est mieux, il est plus robuste. Mais il faut quand même dire qu'on est face à deux grands problèmes. Le premier, c'est l'incapacité et l'absence de volonté du gouvernement centrafricain d'agir sur les questions difficiles et sensibles. Et l'autre, c'est quand même la faiblesse politique de la MINUSCA, qui est simplement l'ombre portée du gouvernement et ne conçoit pas son rôle pour ce qu'il devrait être, protéger la population et pousser de toutes les façons possibles et imaginables le gouvernement et les groupes armés à négocier.
Marilyn Cetatini, puisque vous êtes restée avec nous de Solidarité Internationale en Centrafrique, moi je suis assez curieuse de savoir ce que les gens pensent autour de vous, de cette force internationale, des forces de l'ONU. Est-ce qu'on a l'impression qu'on peut compter sur eux ou pas?
Excusez-moi, la connexion est mauvaise,
j'ai pas entendu. Je vous demandais, parce qu'on était en train d'en parler à l'instant avec Roland Marshall, si comment était perçue la force internationale, les forces de l'ONU en Centrafrique parmi les gens autour de vous? Est-ce qu'on a l'impression quand même qu'ils peuvent protéger la population?
Je pense que quand on lit les journaux à Bangui et quand on écoute les gens parler, il y a une certaine perte de confiance ou de fiance à l'égard de la communauté internationale et à l'égard particulièrement de la MINUSCA. Je pense qu'il y a une incompréhension sur le déficit de protection des civils par rapport au nombre de forces armées sur le terrain. Donc c'est vrai qu'à la lecture des journaux que la plupart des gens lisent ici à Bangui ou à l'écoute de certaines radios, on se rend compte qu'il y a un réel déficit de confiance au déficit de crédibilité de la MINUSCA aujourd'hui en Centrafrique.
Et merci beaucoup Marilyn Cetadini, Roland Marshall, et ce sera la dernière question. J'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on entend dans ce qu'on lit un certain nombre de gens dire la seule solution, ce serait que la France revienne. Est-ce que c'est vraiment une solution, ça, ou pas?
Si vous voulez, il faut que la force internationale soit une force militaire crédible. Elle ne l'est plus depuis l'épisode de Bangassou, c'est-à-dire les Nations Unies ont su un mois à l'avance que cette ville allait être attaquée. Pendant un mois, on a eu le chef de la MINUSCA prétendre que les renforts arrivaient, vous allez voir ce que vous allez voir. Finalement, le massacre a eu lieu. Donc depuis cette période-là, les incidents contre la MINUSCA se sont multipliés à l'intérieur du pays et à Bangui. La popularité de la MINUSCA et la confiance dont elle pouvait jouir se sont évanouies. Et donc il faut changer ça. Alors maintenant que ce soit les Français qui le fassent, on sait qu'ils peuvent le faire, ils l'ont déjà fait.
Il y a eu aussi quelques exactions, il y a eu des histoires d'agressions sexuelles qui n'étaient pas
oui,
à la gloire de l'armée non
fondamentalement,
plus. J'imagine qu'on n'a pas
vrai,
oublié non plus.
C'est vrai, mais fondamentalement il faut se rendre compte que il faut que la MINUSCA se restaure dans l'opinion publique et elle doit le faire à la fois par la force et à la fois en n'étant pas simplement l'écho du discours d'un gouvernement qui ne veut rien faire.
Et c'est pas fini. Roland Marchal, chercheur au CNRS, spécialiste d'Afrique centrale, merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le
et
monde.
La suite donc avec cette histoire de boulettes recyclées dans les cantines scolaires au Brésil. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. L'actu en série Brexit saison 2 avec un déménagement, une lettre qui fait mal et une grosse facture au programme. À suivre aussi l'actu des médias dans le monde avec vous Alexandra Hacoun et le fake de la semaine.
Et oui, et si les photos sur la Lune des astronautes d'Apollo 13 n'étaient qu'une vaste arnaque, c'est ce que prétend en tout cas un youtubeur.
Encore, mais eh ça, ouais. Ça ne passe son temps à revenir cette affaire-là. L'édito d'Anthony Bélanger au Zimbabwe, Anthony.
Eh bien aujourd'hui on va se demander si c'était un coup d'État ou pas un coup d'État et surtout si Robert Mugabe est président ou pas président.
Allez, à tout de suite. Merci de nous écouter sur France Inter. Baby, I feel good. From the moment I rise.
The Kings sur France Inter, till the end of the day. Power Hit Radio. Magic FM.
Terra d'Andrea Zulo.
Desservi Prispo.
60 Minutes.
Florence Paracuelos est là avec son lot d'histoires puisées dans les recoins de l'actualité internationale. Ce soir, Florence, on commence avec des nouvelles d'Algérie à 3 jours des élections locales.
Ben oui, en Algérie, on a du pétrole, ce qui n'empêche pas de chercher des idées pour remplir les caisses de l'État. Dernière en date, la création d'un ISF, un impôt sur la fortune prévu dans la loi de finances 2018, habile manœuvre politique dans un pays où le pouvoir est accusé de tenir les affaires jusqu'à la fin de la semaine dernière et le retrait du projet par la commission des finances de l'Assemblée. Projet morné. Son application relève de l'impossible dans le contexte actuel, dit le président de cette commission. Il appartient pourtant à la majorité au pouvoir. Et pour se justifier, il explique que le système fiscal ne permet ni de savoir combien il y a de riches en Algérie, ni ce qu'ils font, ni où ils vivent, ni quelle est la valeur de leur fortune. Ce qui fait dire à l'opposition qu'il n'y a que les pauvres qui payent des impôts en Algérie. Et c'est dans ce contexte qu'une vidéo, Fabienne, fait le tour des réseaux depuis 3 jours, signée du youtubeur Anestina, déguisé en mendiant et qui répète Rani Zafan, je suis en colère. Je pleure sur toi, mon pays, qu'on a voulu couler comme le Titanic. Je suis en colère. Je vois mon fils mourir à l'hôpital, alors que vous, pour une grippe, vous vous faites soigner à l'étranger. Je suis en colère. Les universitaires et leurs masters vendeurs de cigarettes alors que celui qui a le niveau primaire fait des affaires, il est parlementaire. Je suis en colère. Anestina continue à dérouler le malaise des Algériens, l'exil sur les canaux pneumatiques, la faim, la corruption. On punit celui qui ne fait pas le ramadan alors que celui qui vole des milliards est peinard. On avance en arrière, conclut Anestina, dans cette complainte des pauvres et des miséreux que notre notre collaboratrice Swad Bellani m'a traduite. En 3 jours, Fabienne, la vidéo a été vue presque 3 millions de fois.
Et direction maintenant Madrid.
Madrid où a atterri ce week-end le maire de Caracas, Antonio Ledezma, qui sert ici sa femme et ses filles dans ses bras. Ça n'est pas un simple voyage qu'il vient de faire, Antonio Ledezma, figure de l'opposition social-démocrate. Il sort de presque 3 ans de résidence surveillée, arrêté pour conspiration contre le gouvernement Maduro pour arriver à Madrid. Il a dû s'enfuir par la route vers la Colombie en passant 29 postes de contrôle. Et voilà ses premiers mots à l'aéroport. Je ne fuis pas. Les opposants politiques ne fuient pas. Ils se libèrent. Je vais parcourir le monde. Je vais continuer de mon exil à incarner l'espoir des Vénézuéliens qui veulent sortir de ce régime. Mais Ledezma va aussi critiquer les divisions de l'opposition et accuser le président Maduro de collusion avec le narcotrafic, pendant qu'à Caracas, Nicolas Maduro ironise. Aujourd'hui, Antonio Ledezma nous a échappé. Antonio Ledezma, le vampire, s'est envolé faire le tour du monde. On dit qu'il est parti en Espagne vivre la grande vie avec sa famille. Il est parti boire du vin sur la Grande Via. Bravo, Antonio Ledezma. Voilà, rire, comme si cela pouvait effacer le désastre. Dans ce ping-pong à des milliers de kilomètres de distance, Ledezma vient de répondre à Maduro. Nous ne venons pas ici pour un exil doré, nous venons pour travailler. Prépare-toi, Maduro, parce que maintenant, tu vas entendre rugir les moteurs des exilés vénézuéliens.
À suivre, j'allais dire. Florence Paracolos, merci beaucoup. 18h39 sur France Inter. Et nous partons.
France Inter, le 18-20.
Pour Sao Paulo. Nous sommes sur un marché de Sao Paulo et pourtant, croyez-moi, on ne va pas parler de 5 fruits et légumes. Loin s'en faut, je vous emmène dans l'univers impitoyable des cantines scolaires. Si vous avez des souvenirs douloureux de vos années de cantine, imaginez qu'ici, le maire avait l'intention de nourrir les enfants avec des croquettes, mais oui, des croquettes fabriquées à partir de restes alimentaires. Bonsoir Marine Audachère.
Bonsoir.
L'idée, Marie, elle part d'un souci d'arrêter le gâchis en quelque sorte, mais évidemment, les parents n'ont pas trop eu envie de voir leurs enfants nourris de boulettes recyclées, et voilà ce que ça donne. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, on écoute votre reportage.
L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée par la mairie. La farinata, des granulés grisâtres présentés dans des bocaux en verre, allait être proposée dans les cantines scolaires. D'après Rosanna Perotti, à la tête de Plataforma Synergia, l'entreprise qui produit cette farine, au lieu de jeter les aliments proches de la date de péremption, il passerait par un processus industriel et serait valable pendant 2 années. Une semaine plus tard, face à la polémique causée par cette annonce, Juan Doria, le maire qui avait goûté devant les caméras ses petites croquettes, recule et promet de les destiner aux SDF dans les centres d'accueil de la mairie. À la faculté de santé de la USP, l'université publique de São Paulo, le débat organisé depuis 3 ans à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation organisée par l'OMS s'est évidemment penché sur le sujet. Marli Cardoso est professeure de nutrition.
Nous avons été très surpris. On ignore la composition de ce produit industrialisé. Cela va dépendre des restes d'aliments qui seront utilisés et lyophilisés. Et il n'y a pas de recette, pas d'étiquette, aucune information. Sans oublier que cette idée va à l'encontre des principes d'une alimentation adéquate, privilégiant des aliments frais, le fait de faire de vrais repas, de mâcher ces aliments, ce qui fait partie de l'alimentation et que ce produit ignore.
En plus d'une qualité nutritionnelle qui reste à prouver, cette initiative soulève des questions éthiques. La Plataforma Synergia ne précise pas sur son site internet qui sont ses membres. Nous protégeons l'identité de nos partenaires afin de poursuivre notre travail de lutte contre la faim. Fin de citation. Ce qui intrigue Samia Bonfing, elle est conseillère municipale pour le parti Socialisme et Liberté, le PSOL, et elle compte bien empêcher que la loi municipale autorise la farinata.
Dans les faits, ce projet a été négocié avec des entreprises et prévoit des réductions fiscales pour celles qui participeraient à cette action entre guillemets charitable. Au lieu de dépenser de l'argent pour détruire ces restes alimentaires, elles en feront don à la mairie. Donc en réalité, ce n'est pas un plan pour lutter contre la faim, mais un tour de passe-passe pour ne pas payer d'impôts et favoriser le secteur privé et donner l'impression qu'on fait une œuvre charitable.
D'après l'entreprise Plataforma Synergia, 50 millions de tonnes de farinata ont été produites et seraient prêtes à être distribuées. Mais où, comment? Il n'y a aucune trace d'un contrôle des autorités sanitaires et la mairie de São Paulo ne souhaite pas commenter ces informations. Pourtant, il existe des programmes sociaux de distribution alimentaire à São Paulo, des programmes d'accès au marché à prix populaire, des restaurants à 1 real, 30 centimes d'euros le repas, une réalité que connaissent bien les habitants du centre-ville. À quelques pas de la mairie, des bénévoles distribuent des sandwichs aux SDF. Ils sont une trentaine, identifiés par leur t-shirt SP Sem Fome, São Paulo sans faim, comme Ana Luisa, très en colère contre le maire.
Déjà, on sait que le maire n'a aucune vision sociale, il n'y connaît rien. Et le fait qu'il propose cette pâtée pour humains, comme on l'appelle sur les réseaux sociaux, prouve le manque de respect qu'il a envers son prochain. On doit traiter un SDF, n'importe qui, de la façon dont on voudrait être traité. Nous, on ne mangerait pas de farinata. Alors pourquoi les SDF devraient manger ce que nous, qui jouissons d'une meilleure situation, ne mangerions pas?
Les farinata, boulettes recyclées. Merci Marine Daché à São Paulo pour Un jour dans le monde sur France Inter. On file à Londres.
France Inter.
The United Kingdom is leaving the European Union.
Fabienne Saint-Esse.
This is an historic moment.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série le lundi, l'œil sur le Brexit saison 2. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Antoine, on sent bien que vous êtes dans la rue là, à Londres. On sent aussi, alors on n'entend pas vraiment, mais il y a une histoire de carton dans l'air. Vous êtes devant l'agence du médicament, l'une des agences de l'Union qui va déménager à cause du Brexit.
Eh oui, on le sait depuis moins d'une heure, 900 employés et leurs familles qui vont partir après le Brexit vers Amsterdam. L'agence du médicament, en fait, c'est l'organe qui assure le contrôle, le suivi des médicaments à l'échelle de toute l'Union européenne. Et c'est l'une des premières conséquences concrètes du Brexit. Effectivement, ce soir, il y a toute une série de personnes qui viennent d'apprendre qu'elles vont changer de localité dans le courant de l'année 2019.
Et voilà, c'est pas les premiers, hein, probablement. Antoine, alors pendant ce temps, sur le front du Brexit, c'est la semaine de la banane chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est ça, la banane et les peaux de banane. Parce que c'est dans les moments de crise que ressortent les plus belles expressions britanniques. Et celle-ci est dans la bouche d'une bonne partie des conservateurs ce soir. C'est un des députés pro-Brexit qui l'a prononcé en apprenant le montant de la facture que le gouvernement est prêt à payer à Bruxelles. 40 milliards d'euros, c'est deux fois plus que le montant annoncé par Theresa May, la première ministre, au mois de septembre. Et c'est surtout totalement incompréhensible pour tous ceux qui croyaient que le Brexit allait permettre de faire des économies. À droite, donc, Robert Alphon, qui a du vocabulaire, il a été ministre de l'Éducation, commente « Si vous leur dites ça, les électeurs, people, will go bananas. Les gens vont devenir des bananes. » En français, on dirait « Les gens vont péter une durite. » Un autre élu conservateur ajoute « On ne payera rien, même pas une livre, c'est l'Europe qui devrait nous donner de l'argent. »
Ah ouais, sauf que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. En tout cas, effectivement, la facture, c'est le débat du jour. Alors, le gouvernement réagit comment? Antoine, officiellement, tout est sous contrôle, c'est ce que dit le porte-parole du Downing Street, pardon, qui met en avant le tout nouveau Conseil spécial du Brexit.
Et oui, parce qu'il y a eu la première réunion ce matin avec Theresa May et 9 ministres de ce nouvel organe qui officiellement permet à tous les ministres de parler d'une même voix, sauf que là aussi, une petite peau de banane vient d'atterrir sous les pieds de Theresa May. On est au pays de James Bond, et bien 007 n'aurait pas fait mieux. L'histoire qu'on raconte, c'est celle d'un complot au plus haut sommet de l'État avec une lettre estampillée « For your eyes only », seulement pour vous, seulement pour vos yeux. L'auteur de cette lettre secrète, remise à Theresa May il y a quelques semaines, c'est un personnage que vous connaissez. On a déjà fait le classement de ses plus grosses bourdes, ses plus grosses gaffes sur l'antenne de France Inter.
Alors voilà,
c'est Boris Johnson. Eh oui, le turbulent ministre des Affaires étrangères. En fait, quand Theresa May, il y a quelques semaines, a prononcé le discours de Florence, elle s'est engagée à faire avancer les négociations avec Bruxelles et elle a demandé à tout le gouvernement de faire front. Autrement dit, Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, a eu pour consigne de se taire. Du coup, il a écrit une lettre secrète avec Michael Gove, secrétaire d'État à l'environnement. Lettre remise en toute discrétion au chef de cabinet de la Première ministre, avec cette mention donc « For your eyes only ».
Mais alors qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre, Antoine ?
Eh bien, il y a 2500 mots au total. Et en gros, elle rappelle que plusieurs députés, plusieurs conservateurs pro-Brexit ne veulent pas du tout d'un accord avec l'Union européenne. Et Boris Johnson demande dans la lettre à Theresa May de transformer le Royaume-Uni en une sorte de Singapour de l'Europe. Il faut, dit-il, réduire les impôts, les formalités administratives, en gros, faire une sorte de paradis fiscal. Et puis, il demande aussi au passage qu'on crée un poste de gouverneur, de grand orientateur du Brexit, un poste qui mettrait à l'écart David Davis, le ministre du Brexit.
Voilà, et personne évidemment n'était au courant. Je pose la question,
pas,
mais j'ai la réponse.
Du Brexit. Voilà. Effectivement, David Davis, ces dernières semaines, a continué à négocier avec Bruxelles. Il a continué de négocier avec toute l'équipe de Michel Barnier. Il était en photo avec Boris Johnson, une pinte de bière à la main. Il a continué de le côtoyer un peu partout. Et évidemment, il n'a rien su. Ce soir, pour lui, la bière a comme un petit goût d'amertume et de banane. Justement, ses proches disent que David Davis envisage de démissionner, d'autant plus qu'il a été humilié par Theresa May, ajoute l'un de ses proches, parce que la Première Ministre n'a même pas pris la peine de démentir l'affaire.
Alors une toute dernière chose, Antoine, avant de vous quitter, puisqu'on est lundi, les ministres britanniques se sont réunis ce matin, et donc, malgré tout ça, comme si de rien n'était.
Et oui, il devrait y avoir un plan d'accord sur ce qui se passe dans la prochaine phase des pourparlers. C'est ce que dit la porte-parole de la Première Ministre ce soir. Ça veut dire qu'en gros, la Première Ministre, Theresa May, s'engage à plus ou moins régler la facture que Michel Barnier demande, mais on a bien compris que ça ne sera pas aussi simple que ça.
Ah ben c'est jamais simple, en tout cas. Merci beaucoup, c'est bien ce qui nous fait plaisir et qu'on apprend grâce à vous tous les jours. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. Voici Courtney Barnett et Kurt Vile, Over Everything.
Soul around. I wanna dig into my guitar, bend the blues riff that hangs over everything.
I'm by myself and it's daytime, cause down under, oh, wherever it is I live when it's evening. You know I speed read the morning news and come up with my own little song. To a beautiful morning where the trees are all a wagging, my hair flag waving, the scenery raging, my love flock cascading, and the smog hangs over everything.
When I'm outside in a real good mood, you could almost forget about all the other things, like a big old ominous cloud in my periphery.
Allez, l'un est américain, l'autre est australienne. Courtney Barnett et Kurt Vile, Over Everything.
France Inter, un jour dans le monde.
Et le rendez-vous hebdo avec Alexandra Akoun et les médias dans le monde. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Avec le fake de la semaine pour démarrer comme d'habitude.
Et avec une grande question.
Et hein, un grand
Fabienne.
Retour.
Et un grand retour. Si 41 ans après, l'un des grands pas pour l'humanité était un fake. L'idée vient d'un certain Street Capone, cette fois-ci en tout cas, parce que c'est vrai que l'idée revient régulièrement depuis 2009.
Dites, ouais.
Il a posté sur YouTube il y a 4 jours une vidéo dans laquelle il nous montre une photo de décembre 72, photo de la mission Apollo 17, sixième et dernière mission lunaire de la NASA, au cours de laquelle deux astronautes ont pu marcher sur le satellite de la Terre. Sur cette photo, on voit l'un d'eux, Gene Cernan, visière baissée. Vraisemblablement, il est sur la Lune, mais pas pour Street Capone. Pour preuve, ce qu'on voit dans le reflet de la visière de l'astronaute, explique-t-il.
On voit ce qui semble être un homme. Début des années 70, il a des cheveux longs, il porte un truc qui ressemble à un gilet, et on voit une ombre. Alors j'ai commencé à me demander, où est sa combinaison spatiale?
Du pain béni, évidemment, pour les fans de la théorie du complot. Ce serait qui alors? Un machiniste, selon Street Cap One. Et puis on ne voit pas le flash de l'appareil se refléter dans la visière. C'est encore une preuve, commentent certains. En tout cas, en 4 jours, Fabienne, la vidéo a été vue 752 000 fois. Je l'ai visionnée, honnêtement. Je trouve qu'on n'y voit rien d'autre que
ça existe. Ça fait 50 ans que ça existe, ces histoires. Ça fait 50 ans que ça marche. Pardon, lui, en voilà un qui est en prison, passe à tout à fait autre chose pour de vrai, et depuis déjà 5 ans.
Le blogueur saoudien Raif Badawi a reçu samedi une carte de presse honorifique de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. C'est sa femme, réfugiée avec leurs 3 enfants dans la ville québécoise de Sherbrooke, qui est venue la recevoir. Et oui, Raif Badawi est emprisonné depuis 2012, créateur du site Free Saudi Liberals, sur lequel il militait pour une libéralisation morale de l'Arabie Saoudite. Il a été condamné à 1000 coups de fouet et 10 ans de prison pour apostasie et insulte à l'islam.
Et on s'en souvient, bien sûr. Vous nous emmenez maintenant en Inde, où la liberté d'expression est au cœur d'une vaste polémique.
Alors, à l'origine de cette polémique, une caricature signée Balaji, dessinateur et rédacteur en chef du site d'info Lines Media, qui compte plus de 42 000 abonnés sur Facebook, choqué par l'histoire d'un homme qui s'est immolé par le feu avec sa femme et ses 2 filles après que ses usuriers ont relevé leur taux d'intérêt de façon insupportable. Balaji a osé dessiner le premier ministre de la province du Tamil Nadu nu. On y voit aussi, dans le même apparat, le secrétaire général de cette province d'Inde du Sud et le chef de la police. Tous les 3 se cachent les parties génitales avec de l'argent en regardant un bébé en flammes. Balaji a été arrêté le 5 novembre pour ce dessin. Son cas a lancé un vaste débat sur les réseaux sociaux en Inde, sur les limites de la liberté d'expression. Le mot-clé avec le dessinateur Bala a été l'un des plus repris sur Twitter ces 15 derniers jours. Pour l'heure, Balaji a été libéré sous caution. Il reste poursuivi pour diffamation et surtout pour obscénité. On ne rigole pas avec ça dans ce pays majoritairement musulman. Certains réclament toutefois une modernisation de la loi qui criminalise l'obscénité. Elle date quand même de l'ère coloniale britannique. Et puis, pour terminer, je vous propose un petit jeu, Fabienne. Si je vous dis, vieille impère froissée, cigare, 403, toute pourrie.
Voilà,
les
chiens à l'intérieur, l'inspecteur Colombo, bien sûr.
I'm sorry, forgive me, I didn't mean to intrude. You know, upstairs they told me you'd be down here, but this is some building you got here. I mean, you got everything in this building. Do I know you?
Et oui, Peter Falk, alias Colombo, et ses airs d'abruti pour mieux piéger le coupable. Figurez-vous que les créateurs et producteurs de cette série culte ont décidé d'attaquer Universal en justice. Un contrat signé en 1971 stipulait qu'il devait toucher une part entre 10% des profits générés par la série vendue dans le monde entier. Le premier chèque, écoutez bien, ils l'ont touché 45 ans plus tard.
Écoutez, mieux vaut tard que jamais.
À peine 2 millions de dollars en 2016. Ils réclament donc maintenant le reste de leur dû, mieux vaut tard que jamais.
Enfin, à peine 2 millions de dollars, comme vous y allez. Allez, Sandra, allez, passez une bonne journée. À la semaine prochaine. Anthony Bélanger et l'édito d'Un jour dans le monde. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Fabien.
Et direction le Zimbabwe pour essayer d'y voir un peu plus clair après le coup d'état militaire donc de la semaine dernière. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que l'armée zimbabwéenne refuse d'appeler ça un coup d'état?
Ah oui, bonne question, parce qu'en fait, selon toute vraisemblance, et enfin selon toute évidence, c'est un coup d'état. Parce que quand il y a des chars dans les rues d'une capitale, vous savez, quand l'armée s'invite à la télévision publique, quand le président est en résidence surveillée, quand le parti au pouvoir sous pression, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se dépêche de destituer Mugabe et son épouse Grace. Eh bien, quand tout ça arrive, on peut appeler ça un coup d'état militaire, on peut pas appeler ça autrement. Non. Et puis alors, on pourrait aussi vous répondre que non, ce n'est pas un coup d'état, tout simplement un coup d'état. Tout simplement parce que l'armée zimbabwéenne, c'est l'État. Et oui, les militaires contrôlent des pans entiers de l'économie zimbabwéenne, les mines notamment. Et c'est très important, les mines, dans un pays qui vit avec de rentrées de dollars, au fond, assez peu nombreuses. L'armée a réprimé pas mal de manifestations, et ça c'était depuis l'an 2000. L'armée, en fait, c'est la colonne vertébrale du pouvoir. Et puis en fait, une raison historique aussi. Le Zimbabwe moderne est né d'un combat militaire, d'une guérilla contre le pouvoir blanc de l'époque, c'était en 1980. Ce sont ces guérilleros-là qui ont pris le pouvoir. Ils sont devenus les maîtres et l'armée régulière du pays. Enfin, l'armée, c'est aussi, il faut le dire, la dernière institution étatique du pays qui fonctionne correctement. La police est totalement désargentée. Ceux qui sont allés au Zimbabwe le savent. L'administration est parfaitement inefficace. Elle est corrompue. Elle manque d'argent. Elle est pléthorique. Et puis, il y a quand même quelques bons souvenirs du côté de l'armée zimbabwéenne, comme par exemple la lutte contre la malaria et le choléra. Donc, l'armée zimbabwéenne, c'est à la fois le prestige, mais c'est aussi, et pour répondre à votre question, plutôt qu'un coup d'État, moi j'appellerais appellerait ça un coup de force.
Alors, pourquoi quand même, Anthony, tout le monde au Zimbabwe et ailleurs d'ailleurs, tout le monde semble-t-il ménage Robert Mugabe?
Ben pour une raison presque sentimentale. Bon, d'abord, il a 96 ans, hein, et 93 ans, il est le père de la nation. Depuis toujours, depuis 1980, il est au pouvoir, donc depuis 37 ans. Et puis, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique australe, il reste une figure respectée et aimée. Il a incarné comme Mandela eh bien, le combat contre la minorité blanche. Il a réussi à conserver le pouvoir. Et puis, on ne bouscule pas comme ça le père de la nation, hein, surtout qu'en plus, je le répète, il a 93 ans. Mais la deuxième raison qu'on sait un peu moins, c'est qu'il a des alliés, tout simplement, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a toujours été, qui est toujours aujourd'hui dirigée par l'ANC, vous savez, le parti de Mandela. Alors, il faut savoir que c'est Robert Mugabe qui a protégé les militants de l'ANC, et notamment ses dirigeants, et ce pendant des années, à partir de son arrivée au pouvoir en 1980, jusqu'au milieu des années 90, avant leur victoire contre l'apartheid. L'Afrique du Sud, qui a d'ailleurs la mémoire longue, et qui a surtout immédiatement, il y a quelques jours de ça, envoyé des émissaires sur place pour vérifier que Mugabe était bien traité. Jacob Zuma, le président sud-africain, n'oublie pas. Et puis, en fait, c'est pas vraiment à lui qu'on en veut. Celle à qui on en veut, c'est évidemment à son épouse Grace Mugabe. Vous savez, le vrai coup d'État militaire, ou plutôt le vrai coup d'État tout court, ça aurait été qu'elle le remplace, qu'elle finisse par lui succéder. Elle a, on le sait tous, 41 ans. Elle est 41 ans plus jeune que lui. Mais elle a surtout ce nom absolument incroyable. Elle s'appelle Gucci Grace. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le pays pour dépenser des centaines de milliers de dollars, surtout dans toutes les capitales mondiales. Elle a même embarrassé l'Afrique du Sud, pourtant l'allié ineffectif, l'allié de toujours
indéfectible. C'est ce que vous cherchez.
Voilà, du Zimbabwe. En août dernier, vous savez, en frappant sur son sol une jeune femme qui était en présence de ses deux fils, et c'est comme ça qu'elle a dû être exfiltrée. Embarrasser l'Afrique du Sud, faut quand même le faire. Et puis il y a ses fils aussi, hein, qu'on a surpris il y a une semaine avec en train d'essayer de noyer des Rolex dans du champagne. Je rappelle quand même que le Zimbabwe est un pays totalement ruiné et qu'il y a 10 ans de ça, c'est même pas la première fois, il a connu aussi une des inflations les pires de l'histoire de l'humanité.
Noyer des Rolex dans le champagne. Une dernière question rapidement. Le successeur désigné, c'est pourtant un cacique de la politique zimbabwéenne. Est-ce que c'est pas un Mugabe en plus petit, jeune?
Si, c'est ça le problème. Il s'appelle Emmerson Mnangagwa. C'est l'homme des militaires. Il a été ministre de la Défense entre 2009 et 2013. Il a certes été vaguement écarté du pouvoir. On soupçonne même qu'il ait été empoisonné par Grace Mugabe. Ça, c'était en août dernier. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les militaires, pour continuer à faire des affaires, ont besoin de continuer à avoir de la stabilité. Et ils ont choisi la ZANU-PF, le parti de Mugabe, et ensuite son successeur désigné jusqu'à il y a quelques semaines pour lui succéder. Au fond, eh bien, tout va rester comme toujours au Zimbabwe, c'est-à-dire avec le pouvoir. On écarte Olbob, si vous voulez, c'était le surnom de Mugabe, pour le remplacer par Young Emerson. La messe est presque dite.
Merci beaucoup, Anthony Bélanger. À très vite, le 18-20 continue dans un instant.